Extra Classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Parole d'expert, présentée par Claude Pereira-Lecomte.
Geoffrey Dorne, vous êtes designer graphique indépendant depuis 2005. Vous travaillez sur des projets numériques, imprimés et d'identité. Vous êtes également fondateur de l'atelier de design social et engagé, Design and Human. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Claude.
Alors, la continuité pédagogique demande aux enseignants de dispenser principalement leur apprentissage au travers des écrans. Pensez-vous que ce temps passé devant les écrans soit une source d'inquiétude et si oui, pourquoi ?
Alors en effet, c'est une très bonne question, merci de me la poser. On sait, c'est plus un mythe ou une rumeur, les écrans ont un impact cognitif sur le cerveau, et notamment le cerveau des plus jeunes, des enfants. Et donc, on déconseille l'utilisation des écrans pour les tout-petits, et on essaye de limiter au maximum l'utilisation des écrans pour les plus grands. Mais par contre, là, on n'a pas trop le choix, parce que justement, on est à la maison, on est confiné, c'est le mot qui est employé, et on donc doit travailler sur la continuité pédagogique via l'ordinateur, le numérique, Internet et les écrans. Donc en fait, l'inquiétude, pour qui elle est ? Est-ce qu'elle est plutôt pour les parents ? Est-ce qu'elle est plutôt pour les enfants ? Est-ce que les enfants se sentent inquiets de passer trop de temps devant l'écran ? Est-ce qu'elle est aussi pour les enseignants ? Donc déjà, la question c'est qui est inquiet ? Est-ce qu'il y a vraiment des signes d'inquiétude ? Parfois c'est peut-être plus pour les parents de voir leurs enfants toute la journée, et pour discuter parfois avec des étudiants qui sont en études supérieures, ils nous disent aussi parfois qu'ils sont trop longtemps devant l'écran et ils en ont un peu marre, quoi. Donc l'inquiétude, elle peut être aussi à trois niveaux. Ça peut être au niveau de la charge cognitive. On passe beaucoup de temps sur un écran, donc on a beaucoup d'informations, parce que l'écran permet d'accéder à beaucoup d'informations très rapidement, et donc la charge cognitive peut vraiment être de plus en plus dense et de plus en plus intense, sachant que quand on est devant un écran, parfois on travaille, mais des fois aussi on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on fait autre chose à côté. Donc très vite, on peut s'égarer. La charge cognitive, elle peut être très importante. Ça, c'est le premier point. Donc ça, il faut, je pense, arriver à l'alléger le plus possible. Ensuite, le deuxième point, c'est la charge physique. Être assis devant un ordinateur, devant un écran, là aussi, en termes de charge physique, c'est quelque chose qui peut parfois être dur. On se sent un peu pas très bien dans sa peau, on a chaud, on a froid, c'est pas très très bien. Donc d'arriver aussi à gérer cette charge qui est physique, qui demande un effort physique. Et aussi, il y a la question des outils utilisés. Justement, on fait très attention, et j'invite autant les enseignants que les étudiants que les parents à faire très attention aux outils utilisés, parce qu'on a beaucoup d'outils utilisés qui ont du tracking, qui proposent un peu de divertissement à côté, qui font du profilage aussi. Donc voilà, j'essaie d'inviter aussi les gens à utiliser soit des outils qui sont libres, soit utiliser aussi des horaires, vraiment se fixer des horaires de travail pour pouvoir aussi travailler hors écran et utiliser ce temps hors écran pour ensuite le mettre dans l'écran. On peut par exemple proposer aux étudiants et aux élèves de faire des cours par exemple à l'oral, de répondre à l'oral, d'enregistrer avec l'ordinateur ou le téléphone plutôt que de taper un texte en utilisant l'oral ou la photo, de prendre en photo un texte qui est écrit, etc. etc. Donc d'utiliser, on va dire, l'environnement physique, tangible, sonore, visuel, pour ensuite le remettre dans le numérique, prendre en photo, utiliser le son et l'envoyer à l'enseignant, par exemple, et vice-versa, bien évidemment.
Alors là, justement, vous nous parlez d'une multiplicité d'outils et certaines personnes sont un peu perdues au milieu de tout ça. Et on voit surtout une espèce de grand élan de créativité et de solidarité qui se manifeste. Hier, par exemple, je discutais avec une ancienne élève qui est au collège maintenant et elle m'expliquait, c'était assez amusant, hein, qu'elle avait aidé une de ses enseignantes à créer un compte Instagram pour l'aider à faire classe et pour lancer un challenge de poésie. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant à travers cet exemple, c'est que je me disais, est-ce que cette situation qui est un peu insolite n'allait pas faire évoluer les pratiques des professeurs et puis surtout créer de nouveaux ponts entre les générations ? Parce que c'est nouveau quand même qu'un élève apprenne quelque chose à son enseignant.
Alors, c'est une excellente question aussi. C'est assez amusant parce que pour moi, l'échange intergénérationnel, il est incontestable en cette période et aussi grâce au numérique. Il y a quelques jours, je regardais le journal télévisé de France 2 et on voyait une intervention de Bernard Pivot qui utilisait pour la première fois de sa vie Skype sur une tablette. Donc, c'était son gendre qui avait installé Skype. Et donc, tout à coup, il était nouveau sur Skype et il était interviewé via ce support-là. Donc, c'était assez amusant de se dire que, en effet, que ce soit pour les parents, les grands-parents, faire du lien avec les enfants, les plus petits aussi, d'utiliser tous ces outils numériques, ça crée du lien intergénérationnel. Ça crée aussi beaucoup de créativité, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, sur la création de, par exemple, de comptes sur TikTok ou sur Snapchat ou sur Instagram pour, on va dire, parler de ce confinement, pour parler de l'école, parler des cours, parler de la vie à la maison aussi. Et ce qui est assez amusant quelque part aussi, c'est que ça arrive assez tardivement, cette reconnaissance du numérique et du smartphone notamment, par l'éducation nationale, par l'enseignement en général, de se dire « Ah oui, en fait, ça n'apporte pas que des mauvaises choses, comme parfois on l'entend, mais qu'en fait, le numérique, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise très largement dans presque toutes les couches sociales et dans tous les domaines, et on se dit qu'en fait, finalement, ça peut être bien pratique. Après, la question que je me pose sur l'échange intergénérationnel, c'est est-ce que ça va créer un précédent? Est-ce qu'on va pouvoir conserver cette dynamique de liens, de tutoriels faits par des étudiants pour montrer aux enseignants, par exemple? Et si on veut que cette dynamique elle soit conservée, qu'elle continue d'exister, eh ben ça se prépare, ça se travaille en classe, ça se travaille avec les élèves, ça se travaille à la maison, ça se prépare avec les parents, etc., pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on tire comme conséquence et comme connaissance de toute cette diversité, de toute cette richesse que le numérique nous a apporté pendant cette période de confinement un peu particulière, cette richesse créative aussi, et qu'est-ce qu'on aimerait poursuivre ? Est-ce qu'on aimerait poursuivre, une fois de retour à l'école, en classe, ces concours de poésie via Instagram? Est-ce qu'on a envie de continuer de répondre à un sujet d'examen, par exemple, mais à l'oral, ou à l'écrit, mais pris en photo et envoyé par le numérique? Tout ça, ça se travaille, ça se prépare, ça se réfléchit, pour ensuite peut-être créer soit une transition pour un retour à l'école en douceur, soit un précédent, en disant, la classe numérique, elle n'est pas forcément venue de l'éducation nationale qui a dit c'est comme ça qu'il faut faire, mais peut-être elle viendra peut-être plutôt des élèves, des enseignants et des parents aussi qui diront c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que nous on a fait et ça nous a plu, ça nous a marqué et on souhaite le préserver.
C'est effectivement une réflexion qu'il va falloir mener pour ne pas perdre ce grand élan qu'il y a en ce moment et puis peut-être aussi le pousser pour réfléchir à comment aider ceux qui sont dans la fracture numérique.
Tout à fait.
Donc très concrètement, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. J'aimerais juste, pour nos auditeurs, revenir sur un point. Vous nous avez parlé de TikTok, vous voyez, mais moi, je ne sais pas. Oui, est-ce ça. Que vous pouvez nous en dire juste un tout petit peu plus? Parce que c'est un réseau social que je ne connais pas.
Alors, c'est un réseau social qui est arrivé après Snapchat, qui est un réseau social dans lequel il y a beaucoup de jeunes, voire de très jeunes, qui permet de s'enregistrer en vidéo par-dessus des musiques, par-dessus des extraits de films, par-dessus des conversations, etc. Et donc, tout à coup, on se retrouve à faire du playback, quelque part, en faisant des gestes, des mouvements, des danses, etc. Donc, au départ, la base de TikTok, c'est ça. Et après, évidemment, ça a été détourné, ça a été réapproprié, et ça a pris une ampleur mondiale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, vous cherchez sur YouTube ou sur diverses plateformes de vidéos, vous cherchez TikTok, et là, vous voyez plein de compilations de toute cette créativité qui existe, qui parfois est très drôle, parfois très surprenante, et qui provoque des nouveaux usages là aussi.
Alors, pour poursuivre sur ces usages, concrètement, quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner au mieux les élèves et les parents dans l'utilisation d'Internet et de tous ces réseaux sociaux?
Alors, c'est très très simple, il y a vraiment des conseils très simples qu'on peut mettre en pratique. D'abord, il y a le dialogue. Il y a le dialogue sur un apprentissage mutuel, on en parlait juste avant, pour que les parents puissent découvrir l'usage que font leurs enfants de certains outils numériques, qu'ils puissent eux aussi l'installer sur leur smartphone, et puis de s'asseoir à la table et de dire « montre-moi comment ça fonctionne TikTok, montre-moi comment ça fonctionne Snapchat et même si je ne crée pas un compte moi-même en tant que parent ou enseignant, je vais au moins comprendre le déroulé d'une story, le déroulé d'une mise en ligne d'une vidéo, etc. » Donc ça, c'est un conseil très simple, mais c'est hyper important. Donc c'est aussi le partage des outils. À la maison, on a aussi la prise de conscience que des fois, il y a un seul ordinateur pour toute la famille ou un smartphone pour toute la famille. Et donc, il faut arriver à partager les outils et donc créer du temps d'écran. Donc de dire, entre telle heure et telle heure, c'est à toi, entre telle heure et telle heure, c'est à moi. Et puis, il y a la cohabitation. Parfois, il y a plusieurs ordinateurs ou plusieurs outils numériques et on parle tous en même temps dans la même pièce et ça peut être compliqué. Donc, créer des temps, c'est très important de se faire un petit planning, un petit programme, et ce qui permet aussi, en créant ce genre de temps, d'avoir du temps hors écran. Et donc, ces temps hors écran, on peut aussi les créer comme des temps hors écran collectifs. L'enseignant peut, par exemple, inviter l'élève à avoir un temps hors écran pour aller recueillir des choses dans la bibliothèque, pour aller réfléchir ou interviewer ses parents pour faire parler de tel ou tel sujet, ou ses petits frères ou ses grands frères ou grandes sœurs, je ne sais pas. Donc, que ces temps hors écran soient aussi des temps d'enrichissement collectif. Un autre conseil qui est hyper important, c'est ne pas multiplier les outils. Je vois certains enseignants qui proposent 2, 3, 4, 5 outils pour la même classe, et donc ça rajoute à chaque fois un degré de complexité sur l'usage de ces outils, parce qu'un outil, il faut l'apprivoiser, et un outil, parfois, il est complexe. Donc, vraiment, essayer d'exploiter l'outil dans sa globalité et jusqu'au bout. Un autre conseil aussi, pour les enseignants, là, en l'occurrence, parfois, il est possible de faire des petits tutoriels avec des applications qu'on appelle le screencasting. Donc, screen comme l'écran et casting comme le fait d'enregistrer son écran. Donc, de screencasting. Donc, il y a des plugins sur les navigateurs. Il y a même des logiciels qui font ça. Et ce qui permet d'ouvrir l'application et donc d'enregistrer avec sa voix, de dire, voilà, vous cliquez ici, vous cliquez là, là, vous remplissez tel champ. Et après, on envoie la vidéo et c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Merci beaucoup, Geoffrey. Alors, ça sera le dernier conseil et après, on arrêtera cet entretien.
Eh ben, le dernier conseil, c'est de faire confiance aux parents, aux élèves et aux enseignants pour aussi diminuer la charge de travail. Et c'est pas parce qu'on est sur le numérique qu'on est isolé. Et donc, recréer, on va dire, de l'échange, du dialogue et de la collaboration grâce au numérique et pour éviter cet isolement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, d'élèves qui sont isolés.
Merci beaucoup, Geoffrey, pour ces éclairages et puis pour ces conseils pratiques très pertinents. Au revoir.
Merci.
Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de réseau-canopée.fr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.